Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à la diplomatie dans le monde. Les relations internationales ont connu ces dernières décennies d'importants bouleversements. Fin de la guerre froide, implosion de l'URSS, émergence de nouvelles puissances, la Chine bien sûr, mais pas seulement. Comment les diplomaties se sont-elles adaptées au nouvel ordre mondial? Comment les outils diplomatiques ont-ils évolué? Quels impacts cette évolution dans le monde a-t-elle eu sur l'autonomie des ministères des Affaires étrangères? Comment les diplomaties confrontées à la mondialisation se sont-elles adaptées entre la multiplication des acteurs ayant un rôle international et les rapports de force qui semblent bien avoir pris le pas sur le respect du droit? Regard avec nos invités, Alice Ekman, chercheur responsable des activités Chine à l'IFRI et enseignante à Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Maya Candel, historienne, chercheuse associée à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, spécialiste des États-Unis. Bonjour.
Bonjour.
Et Maurice Weiss, professeur émérite d'histoire des relations internationales et directeur pour ce qui nous intéresse aujourd'hui de diplomatie étrangère en mutation aux éditions Pédone. Bonjour.
Bonjour.
La façon de conduire la politique étrangère a progressivement évolué, surtout pour les États qui conservent un vrai rôle international. Qu'est-ce que l'on peut dire des grandes tendances de l'évolution entre la fin du XXe siècle et ce début du XXIe siècle? Vous parlez, Maurice Weiss, de durcissement du climat international et de recul de la diplomatie, ou en tout cas de remise en cause des fondements même de l'action diplomatique. Ce n'est pas forcément vrai chez tout le monde.
Non, c'est pas forcément vrai chez tout le monde, mais le panorama que nous avons essayé de donner dans ce livre porte essentiellement sur les pays du G7. Et même si nous avons ajouté certains pays qui n'en font pas partie pour en traiter, c'est vrai que ce diagnostic que vous venez d'émettre est à peu près véridique pour ce que nous avons dit. Oui.
Alors, capitale du G7, je les cite, et vous avez ajouté donc la Turquie, donc Ankara, Berlin, Brasilia, Londres, Moscou, Ottawa, Pékin, Rome, Tokyo, Washington. Maurice Weiss, il n'y a pas de capitale africaine.
Non, non, c'est vrai, c'est un regret, et je suis le premier à le regretter. En effet, il n'était pas possible de faire le tour de toute les diplomaties. C'est vrai qu'il aurait été bon d'évoquer une capitale africaine, d'autres capitales du Proche-Orient. Par exemple, la diplomatie israélienne, sur laquelle il y a eu un article très intéressant à propos des diplomates israéliens qui sont fous furieux de la baisse des crédits qui les affectent et également du recul de leur influence dans la diplomatie israélienne. Par conséquent, oui, c'est vrai, on pourrait faire un panorama général. Ça n'a pas été possible dans le cadre de cet ouvrage.
Alors, on va bien sûr, avec Maya Candel, parler des États-Unis, avec Alice Ekman de la Chine. Mais qu'est-ce que l'on peut dire, Maurice Weiss, des grandes évolutions? Il y a bien sûr les mutations technologiques, l'avion, Internet. Mais globalement, qu'est-ce que l'on constate finalement, d'un côté, un déclin des outils et une réduction des crédits affectés au ministère des Affaires étrangères dans les pays occidentaux, mais pas dans ceux où il existe au contraire une vraie volonté de puissance et une expansion des postes diplomatiques, il y a une dynamique des pays émergents, la Chine, le Brésil, la Turquie.
Oui, alors, je crois qu'il y a deux phénomènes essentiels qui concernent presque tous les pays, sauf, en effet, certaines dictatures ou certains régimes autoritaires, dont nous parlerons plus tard. Ces deux phénomènes sont, d'abord, la présidentialisation du pouvoir en matière de politique étrangère, avec la personnalisation des rapports entre les dirigeants et la baisse des crédits. Ça, c'est extrêmement net. On constate donc, premièrement, que les dirigeants des grands pays, et même des autres pays, aiment se rencontrer directement, ont de plus en plus tendance à se voir directement. Ça n'était pas le cas auparavant, il faut bien se rendre compte de la chose. Il y avait un rôle des ambassadeurs, il y avait un rôle des ministres des Affaires étrangères. De plus en plus, les dirigeants aiment à se retrouver directement, quelquefois en tête-à-tête et quelquefois très fréquemment. Je donne l'exemple de l'année dernière, à l'automne, où il y a eu une réunion autour des 11-12 novembre à Paris, où il y avait pratiquement tous les dirigeants de la planète.
C'était le forum sur la paix.
Le forum sur la paix, absolument. Et quasiment trois semaines plus tard, ces mêmes dirigeants se retrouvaient à Buenos Aires pour un G20. Et ce qui veut dire que, par conséquent, ils passent leur temps dans les transports et il y a un vrai un vrai dynamisme de ces de cette personnalisation du pouvoir en politique étrangère qui laisse les ministères, c'est-à-dire les outils diplomatiques, les machines diplomatiques, un peu en arrière. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, vous en avez parlé, c'est la baisse des crédits, l'extraordinaire appauvrissement des ministères des Affaires étrangères. Mais cela, c'est un phénomène qui est très général dans les démocraties et qui a quelque chose à voir avec un phénomène beaucoup plus important, beaucoup plus large, qui est le libéralisme économique ou le néolibéralisme économique et le fait que il y a de moins en moins d'importance donnée à l'État et de plus en plus d'importance donnée à ce qui peut être un succès donné de l'État. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères qui auparavant régnait très largement sur tout ce qu'on peut dire l'aide au tiers-monde, eh bien, s'est vu déposséder peu à peu de toutes ses prérogatives dans ce domaine-là, et maintenant, à côté du ministère des Affaires étrangères, il y a une agence française de développement qui est une véritable institution, un État dans l'État, sur le plan du développement, sur le plan des crédits, et par conséquent, on voit bien, et c'est pas uniquement pour la France, au Canada, on a exactement le même phénomène. Au Royaume-Uni, on a le même phénomène, qu'il y a à côté du ministère des Affaires étrangères des agences ou d'autres institutions qui font concurrence au ministère. Et par conséquent, voilà les deux grands phénomènes qui, à mon avis, concernent la période 1980 à 2020.
Alors, personnalisation du pouvoir en politique étrangère, probablement que la question des images est importante et c'est ce qui fait aussi probablement que les chefs d'État ont souhaité reprendre à eux cet aspect diplomatique, ces rencontres, ces forums, c'est une façon pour eux d'être en première ligne et de faire la couverture des journaux. Maurice Weiss, après ça, j'ai demandé à Maya Candel et Alice Seckmann comment résonne ce que vous avez dit dans les pays qu'elles ont étudiés, les États-Unis pour l'une et la Chine pour l'autre. Maurice Weiss, rapidement, les questions des images.
Je suis entièrement d'accord sur le fait que les images sont très importantes. Je vais vous donner un exemple très personnel. Il se trouve que pour un ouvrage que j'ai publié il y a quelque temps, on m'a proposé des photos pour illustrer la couverture. Et plusieurs de ces photos concernaient le président Trump. Eh bien, je m'y suis opposé. Je m'y suis opposé parce que, en définitive, c'est un peu de la vente forcée. On a vu ce qu'il en était il y a peu de temps au point de vue du fait que Trump passait la ligne de démarcation en Corée. Eh bien, c'est un peu cela. Donc, en effet, il y a la volonté de la part des dirigeants d'être toujours sur le devant de la scène, mais quelquefois nous devons, nous, historiens, nous, politologues, nous, universitaires, nous, personnes de la presse, réagir et essayer de remettre un peu les choses dans le bon sens.
Alors, vous avez fait la transition pour Maya Candel, on va parler des États-Unis, la présidence Trump. Maya Candel, comment ce que vient de dire Maurice Weiss sur les deux phénomènes essentiels, présidentialisation du pouvoir en politique étrangère, baisse des crédits et appauvrissement des ministères des Affaires étrangères, en l'occurrence pour les États-Unis, il s'agit du département d'État. Comment est-ce que tout cela résonne?
Oui, alors sur le premier point, il est clair que Trump constitue une sorte de comble de ce phénomène, en particulier, enfin pour deux raisons en fait. D'abord par l'utilisation de son fil Twitter, et on a vu il y a eu plusieurs exemples depuis 2 ans et demi qu'il est au pouvoir, où il court-circuite par exemple son secrétaire d'État Rex Tillerson en déplacement en Asie, ou son deuxième secrétaire d'État Mike Pompeo, ou bien tout simplement, par exemple en décembre dernier, quand il annonce sur Twitter le retrait américain de Syrie. Et à ce moment-là, on a une espèce de perversion totale du processus de décision en politique étrangère, avec toute la machine de l'État américain, en particulier département d'État et conseil de sécurité nationale, qui fait une espèce de processus à l'inverse pour s'ajuster à la nouvelle décision que le président vient d'annoncer sur Twitter sans prévenir personne, et qui a provoqué d'ailleurs la démission de Jim Mattis. L'autre aspect avec Trump, c'est par rapport à ce que vous venez de dire sur le pouvoir des images. Trump, c'est un professionnel de l'immobilier, c'est aussi surtout un professionnel des médias et de la télé-réalité. Et on a vraiment le sentiment que, alors c'est vrai pour les questions intérieures américaines, hein, on a une espèce, sa présidence, une espèce de show de télé-réalité, un peu rythmé comme ça, avec des annonces, des images frappantes, des saisons qui s'ouvrent sur de nouveaux personnages. Et on a un peu la même chose à l'international. Et effectivement... on l'a vu, Monsieur Weiss parlait de l'exemple de la quand il met il franchit la frontière avec la Corée du Nord. C'est uniquement une question de show télévisé parce que finalement on n'a rien derrière. Il donne aux dirigeants nord-coréens une légitimité que tous les présidents américains avant Trump n'avait surtout pas voulu lui donner. Ces rencontres au sommet, d'ailleurs, on pourrait citer les exemples des sommets avec Vladimir Poutine, les précédents sommets avec Kim Jong-un. C'est vraiment, normalement, un sommet en diplomatie, ça va être l'aboutissement d'un processus diplomatique, d'un accord signé. Et là, on va avoir la rencontre entre les chefs d'État. Là, on a quelque chose complètement inverse qui montre bien que finalement, c'est les images pour les images. Après, au-delà, sur l'évolution plus largement depuis la fin de la guerre froide, c'est vrai que le cas des États-Unis est intéressant parce que d'abord il éclaire un peu le phénomène Trump d'un autre jour, hein, parce qu'on a un certain nombre de phénomènes qu'on a tendance à rattacher à Trump qui sont en réalité antérieurs, en particulier le fait de rejeter justement tout ce qui est négociation diplomatique en vue d'un traité, la baisse des crédits du Département d'État. En réalité, alors Trump mène une grosse offensive là-dessus, mais en réalité, cette offensive, elle commence contre les diplomates et la diplomatie. Elle commence dans les années 90 avec un congrès républicain qui est déjà très unilatéraliste, qui rejette la diplomatie parce que les diplomates seraient une élite, qui est très attaché à la souveraineté, qui veut défendre cette espèce de religion de la souveraineté contre le multilatéralisme qui se développe déjà à cette époque. Et puis, il y a une autre tendance, peut-être on en reparlera ensuite, de militarisation de la politique étrangère, qui là aussi est quelque chose qui vient du Congrès et qui s'est fait très largement au détriment du Département d'État.
Donc alors effectivement, c'est ce que vous venez de dire à l'instant, Maya Kandel, finalement cette offensive républicaine contre les diplomates et la diplomatie en général, elle remonte au milieu des années 90, donc rien de nouveau avec Trump. Alors j'ai tout de même une question, après ça je vous passe la parole à Alice Ekman. On a beaucoup parlé avec la façon dont Donald Trump gère cette diplomatie de façon tout à fait inattendue. Alors beaucoup de démissions au Département d'État, finalement elles ne sont pas forcément dues à la présidence Trump, c'est simplement qu'il y a une évolution dans la diplomatie, dans la façon de faire de la diplomatie aux États-Unis, avec, vous le soulignez dans l'article, bon bien sûr, déclin du Département d'État comme acteur central de l'action extérieure des États-Unis, mais aussi le National Security Council, qui est créé en 1947 et qui a donné au président donc une sorte de bureau exécutif. Vous le comparez à un cabinet de guerre. Et aux États-Unis, c'est donc ce National Security Council. Il y a aussi le ministère de la Défense, le Pentagone. Enfin, voilà, tout ça s'est fait au détriment du Département d'État. Maya Kandel.
Oui, on a une évolution en plusieurs étapes. Je vais essayer de faire très vite, mais disons... Après la Seconde Guerre mondiale, donc quand les États-Unis acceptent de prendre des responsabilités mondiales, créent tout ce système d'institutions internationales et maintiennent leur empreinte militaire globale issue des combats de la Seconde Guerre mondiale, ils créent aussi, par la loi de 1947, tout un appareil de sécurité nationale, en fait de nouvelles institutions, bon la CIA, le Pentagone, donc le Département de la Défense tel qu'on le connaît aujourd'hui, et le Conseil de sécurité nationale au sein de la Maison Blanche. En fait, ce Conseil de sécurité nationale, il compte une dizaine de personnes jusqu'à Nixon, mais je résume, il va prendre vraiment une nouvelle ampleur après la fin de la guerre froide et finalement tout particulièrement sous Obama. Sous Obama, à un moment, le Conseil de sécurité nationale compte 400 personnes. Donc on est vraiment là dans une sorte de mini département d'État au service du président et avec en plus parfois des personnalités très intellectuellement forte, parfois très proche aussi du président. Tous ces éléments comptent, hein, bien sûr, la proximité avec le président, des différents acteurs, l'entente. Et donc, ça va être le poste de Kissinger, de Brzezinski dans les années 70. On a ensuite, sous Clinton, par exemple, Bill Clinton dans les années 90, Anthony Lake, qui est vraiment l'artisan de la fin de la guerre en Bosnie, ou de la doctrine d'élargissement des démocraties de marché, hein, vraiment cette la mondialisation en marche qui est mise en œuvre sous la présidence Clinton. Et puis là, pour revenir à aujourd'hui, aujourd'hui c'est le poste de John Bolton, et on sait bien sûr que il a une influence importante au sein de l'administration Trump. Alors, avec les réserves que Trump aime bien jouer les uns contre les autres, et que donc il utilise Bolton dans certains cas, par exemple pour faire peur à l'Iran, même si on sait que Trump ne veut pas intervenir en Iran. Il lui laisse aussi le champ libre sur d'autres dossiers, par exemple sur l'Amérique latine. C'est vraiment John Bolton qui est à la manœuvre. Et donc, voilà, j'ai peut-être oublié la deuxième partie de votre question.
Non, la question qui était de dire, finalement, si aujourd'hui il y a eu beaucoup de démissions sous la présidence Trump au sein du département d'État, c'est aussi parce que les choses ont eu tendance à se déplacer.
Oui, alors là-dessus, je pense qu'il y a aussi une manœuvre tout à fait délibérée de la part de cette administration de laisser vacant un certain nombre de postes. Alors c'est pas nécessaire. Alors il y a eu beaucoup de démissions pour diverses raisons. Je crois que c'est assez épuisant nerveusement de travailler dans l'administration Trump. Trump a poussé tout simplement des gens à la démission. Il y a eu un certain nombre de scandales, hein, parce qu'il y a beaucoup de corruption et d'affaires au sein de cette équipe. Mais il y a aussi cette stratégie de ne pas avoir nommé de gens sur à la tête de bureaux, par exemple, dont on n'a pas envie qu'ils aient une importance dans
un
le processus.
Un ascendant trop important.
Voilà, sur les droits de l'homme, sur un certain nombre de sujets sur lesquels l'administration n'a pas envie, en fait, de considérer que ce n'est pas une priorité, eh bien, les postes sont laissés vacants. C'est un peu ce mélange. Mais en même temps, moi, je trouve le dernier point qui est intéressant, c'est que, je disais tout à l'heure, on a une offensive du Congrès républicain contre le département d'État à partir des années 90, et aussi ces mêmes parlementaires qui ont tendance républicains, qui ont toujours privilégié le Pentagone. Aujourd'hui, ce qu'on observe sous Trump, qui n'est pas le moindre des paradoxes de l'époque actuelle, c'est que le Congrès républicain, pendant les deux premières années, aujourd'hui divisé, est le premier défenseur, en fait, du budget du département d'État, que l'administration a voulu couper de 30%, donc quand même quelque chose d'assez incroyable. En fait, le Congrès a défendu le budget, il est resté stationnaire, et l'autre grand défenseur aujourd'hui des diplomates, c'est justement le Pentagone, parce que les militaires savent bien qu'il faut aussi de la diplomatie pour régler un certain nombre de conflits en cours.
Maya Kandel, comment expliquer ce qu'on voit aujourd'hui un Congrès républicain défenseur du département d'État ?
Oui, alors c'est pas le moindre des paradoxes de l'époque, effectivement. Cette offensive contre la diplomatie qui est partie du Congrès républicain dans les années 90, aujourd'hui on voit à l'inverse que le premier défenseur du département d'État et des diplomates se trouve au Congrès républicain pendant les deux premières années, aujourd'hui divisé, qui a résisté, qui a refusé en fait la demande budgétaire issue de l'administration qui visait à faire baisser de 30%, donc quand même quelque chose de tout à fait frappant, le budget du département d'État. Il est resté stationnaire, en gros, depuis le début de l'administration Trump. L'autre grand défenseur du département d'État, aujourd'hui, c'est le Pentagone. Les militaires savent que cette administration veut se désengager d'un certain nombre de guerres, et savent qu'ils ont besoin de diplomates et de diplomatie pour ce faire.
Est-ce qu'on peut parler dès lors, Maya Kandel, d'une sorte de démilitarisation de la politique étrangère américaine ?
Alors, on n'en est peut-être quand même pas tout à fait encore là. On a une volonté de Trump, à l'approche de l'échéance de 2020, d'honorer un certain nombre de promesses et en particulier de mettre fin à ces guerres qu'il jugeait inutiles quand d'autres étaient à la présidence, hein, en particulier la Syrie, le Moyen-Orient en général et l'Afghanistan. Mais pour le reste, je pense que c'est un président qui reste assez militariste, d'ailleurs un qualificatif qu'il revendique lui-même, et on n'a pas de démantèlement large de la posture militaire américaine à l'international.
Alors Maurice Weiss parlait de présidentialisation du pouvoir en politique étrangère, de baisse des crédits, appauvrissement des ministères des Affaires étrangères. Il sera intéressant dans la deuxième partie d'émission de parler de la dynamique, au contraire, des pays émergents. Vous abordez la question du Brésil, de la Turquie, mais surtout de la Chine avec vous, Alice Ekman. On vous retrouve après le journal, ainsi que Maya Kandel et Maurice Weiss. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la diplomatie dans le monde. Nous retrouvons nos invités. Alice Ekman, chercheuse responsable des activités Chine à l'IFRI, enseignante à Sciences Po. Maya Candel, historienne, chercheuse associée à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et spécialiste des États-Unis. Maurice Weiss, professeur émérite d'histoire des relations internationales et directeur pour ce qui nous intéresse aujourd'hui de diplomatie étrangère en mutation, paru aux éditions Pédon. Alice Ekman, la Chine, c'est le deuxième réseau diplomatique au monde, derrière les États-Unis et devant la France. Elle mène, la Chine, une diplomatie entreprenante et particulièrement ambitieuse. Tout a commencé en 1978 avec l'arrivée de Deng Xiaoping.
Oui, arrivée de Deng Xiaoping au pouvoir, ouverture progressive de la Chine, reconnaissance croissante de la République populaire de Chine par un certain nombre de pays étrangers. Donc besoin de la diplomatie chinoise, d'avoir des diplomates plus professionnels, plus compétents, alors que sous Mao, déjà il y avait la période de la révolution culturelle où un certain nombre d'ambassades avait été fermée et certains diplomates avaient dû être rapatriés à Pékin, mais surtout dès la création de la République populaire de Chine en 1949, un certain nombre de diplomates, y compris d'ambassadeurs, étaient avant tout recrutés sur des critères politiques et idéologiques, c'est-à-dire être un cadre révolutionnaire, témoigner d'une totale loyauté envers le parti, et la maîtrise d'une langue étrangère n'était pas le premier critère. Donc on se retrouvait avec, des ambassadeurs qui ne parlaient aucune langue étrangère, qui ne savaient presque pas dans quel pays ils étaient tombés, si je puis dire, etc. Sous Deng Xiaoping, il y a eu réellement un processus de professionnalisation de la diplomatie chinoise, assez efficace, avec des nouveaux programmes de formation des diplomates d'inspiration, on pourrait dire, occidentale. En tout cas, la Chine a progressivement intégré les codes des diplomaties installées et progressivement, la diplomatie chinoise a parlé, on peut dire, le même langage international en cours dans certaines institutions internationales, dans les rencontres bilatérales. Et en même temps, la Chine a gardé des spécificités qui lui sont propres, notamment un parti communiste chinois qui reste particulièrement influent et qui supervise la diplomatie chinoise. Donc là, c'est pas un régime présidentiel, mais c'est une politique étrangère supervisée par le parti, avec un ministère des Affaires étrangères faible également dans cette situation chinoise, parce que le parti édicte les grandes orientations de la politique étrangère. Avec Jiang Zemin et puis Hu Jintao, et l'augmentation des investissements chinois à l'étranger, la diplomatie chinoise a dû assurer de nouvelles missions, notamment de protection des ressortissants chinois à l'étranger, et plus récemment, protection qui est assurée par la diplomatie chinoise, mais aussi par l'armée populaire de libération, puisque par exemple, lors de la crise libyenne, la Chine a dû évacuer près de 36 000 ressortissants très rapidement. Et donc, la diplomatie chinoise a dû désormais compter le nombre de ressortissants chinois présents à l'étranger, mettre en œuvre des moyens pour pouvoir les protéger, les évacuer, et puis aussi protéger les investissements chinois à l'étranger, accompagner les entreprises, avec un rôle croissant du ministère du Commerce dans l'application de certaines orientations de politique étrangère chinoise. Et puis, un élément très important et qui fait écho à ce que disait Maurice Weiss tout à l'heure, c'est au moment où certaines diplomaties font face à des contraintes budgétaires, le budget chinois de la diplomatie chinoise explose.
Alors, il explose, je reprends les chiffres que vous citez, Alice Ekman, et je parle sous votre contrôle. Augmentation rapide depuis le début de la présidence de Xi Jinping, il a doublé le budget alloué à la politique étrangère, il a doublé en 5 ans, il est passé de 3,8 milliards d'euros pour 2011 à 60 milliards pour 2018, effectivement une augmentation significative.
7,5 milliards d'euros si l'on convertit en euros, mais c'est ça a doublé si on compte en yuan ou en euros. La Chine qui est devenue deuxième réseau diplomatique au monde et qui continue à investir dans sa diplomatie, puisque entre 2017 et 2018, le budget a augmenté de 15%. Donc on parle souvent du budget de la défense chinois et son augmentation de près de 10%, mais en fait le budget diplomatique augmente encore plus rapidement avec une volonté pour la Chine de rattraper son retard dans certaines pratiques diplomatiques, certains outils déjà bien maîtrisés par certaines diplomaties comme la diplomatie française. Pour vous donner quelques exemples, la diplomatie sous-régionale, la création de forums régionaux, que ce soit en Afrique, le FOCAC, que ce soit en Europe centrale et orientale, avec la création du forum 16+1 qui est aujourd'hui 17+1 avec l'inclusion de la Grèce et donc création de ce forum dès 2012, avec l'organisation d'un nombre croissant de forums multilatéraux, tels que le Forum sur les nouvelles routes de la soie, dont la deuxième édition s'est tenue en avril dernier et qui a réussi à réunir quand même près d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement, même si les résultats sont limités, la Chine dispose désormais d'une capacité de rassemblement telle que la question est posée, est-ce que ce nouveau forum des routes de la soie rivalisera à terme avec d'autres forums multilatéraux déjà bien installés tels que le G20? C'est une question qui est posée. Et puis la Chine a aussi beaucoup investi dans les think tanks. Avec la mobilisation des think tanks existants et la création de nouveaux think tanks sous Xi Jinping, avec pour objectif principal, clairement affiché, la diplomatie publique, c'est-à-dire communiquer à l'étranger, relayer à l'étranger les concepts clés de la diplomatie chinoise. Donc, ce n'est pas du tout le même fonctionnement que d'autres diplomaties, en tout cas celles développées dans des contextes démocratiques. Dans le cas de la diplomatie chinoise, le gouvernement est capable de relayer par une diversité de canaux, think tank, médias, forums, les éléments de langage clés de la diplomatie chinoise pour promouvoir ses intérêts au niveau bilatéral et multilatéral. Mais aujourd'hui, la diplomatie chinoise est très fortement coordonnée sous Xi Jinping, puisqu'on a un président fort, très ambitieux sur la scène internationale, mais également très, on va dire, strict dans la communication de la diplomatie chinoise. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'acteurs diplomatiques, y compris les diplomates, se doivent de communiquer sur les grands projets de Xi Jinping, tels que les nouvelles routes de la soie, mais ont peu de marge de manœuvre et peu de degré d'initiative dans la mise en application concrète de ces projets. Et on se demande même aujourd'hui si le contrôle de la communication diplomatique chinoise est tel qu'il n'apparaît pas contre-productif pour la Chine elle-même.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que aujourd'hui, il devient difficile, au niveau bilatéral comme multilatéral, de discuter concrètement des projets, par exemple, mis en œuvre dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Parce que les diplomates chinois prononcent certains éléments de langage très généraux, la communauté de destin commun, le rêve chinois, une partenariat gagnant-gagnant, donc des propos très très flous. Et lorsque les partenaires étrangers relancent sur les projets concrets de partenariat, les diplomates chinois n'ont pas le degré d'initiative nécessaire pour pouvoir eux-mêmes détailler ces projets. L'information doit revenir à Pékin et une fois validée, peut ensuite revenir dans le pays étranger, dans la relation. Donc vous voyez, nous sommes dans un système quand même particulièrement contrôlé, particulièrement cadré. Et ça, ce contrôle s'applique aussi aux think tanks dont on parlait à l'instant et aux institutions de recherche, c'est-à-dire que la Chine est capable de mobiliser un grand nombre de chercheurs et d'analystes stratégiques et de sécurité sur les sujets considérés prioritaires pour les gouvernements. Donc, c'est-à-dire, nous avons vu émerger un nombre de départements de recherche sur la gouvernance mondiale depuis Hu Jintao, puisque la restructuration de la gouvernance mondiale est un objectif clé de la diplomatie chinoise depuis plus de 15 ans. Mais lorsque des sujets ne sont pas considérés comme des priorités fondamentales pour le gouvernement, il y a très peu de marge de manœuvre pour effectuer de telles recherches. Et donc, comme l'inutile peut devenir utile et que parfois les chercheurs sont tout à fait aptes à anticiper les sujets utiles demain pour leur gouvernement, mais ils ne sont pas en mesure de développer cette capacité de recherche. Donc la Chine dispose en même temps d'une force de frappe en termes d'analyse stratégique, d'innovation, de recherche, et c'est valable pas uniquement en sciences sociales, aussi dans les sciences considérées comme dures. Aujourd'hui, on le voit dans l'intelligence artificielle, dans la 5G, et en même temps, d'autres sujets sont laissés en friche parce qu'ils ne sont pas considérés comme priorité gouvernementale. Et aujourd'hui, je pense que la forte centralisation de la diplomatie chinoise constitue à la fois une force et de plus en plus une faiblesse pour les intérêts chinois eux-mêmes. Puis, il y a aussi un élément très important, je pense, à prendre en compte dans l'évolution de la diplomatie chinoise, c'est que la diplomatie qui a appris d'autres diplomaties, notamment diplomatie installée, on en parlait tout à l'heure sous Deng Xiaoping, c'est-à-dire qu'elle a maîtrisé les codes de la communication internationale, elle a maîtrisé les langues étrangères, la connaissance du droit international, des aires géographiques, etc. Aujourd'hui, la Chine souhaite non plus se positionner comme une diplomatie en apprentissage, mais une diplomatie de référence pour le monde. Et ça, c'est très intéressant.
Elle forme des diplomates.
Voilà, elle forme des diplomates selon ses méthodes propres qui sont toujours, dans une certaine mesure, d'influence soviétique, dans leur structuration, dans leur communication, dans leur mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, on voit se développer dans le monde certaines méthodes diplomatiques d'influence chinoise, telles par exemple que la signature quasiment systématique d'accords cadres, que ce soit sur les routes de la soie ou d'autres, telles que la tenue de forums particuliers selon des mots-clés qui ont été proposés par la diplomatie chinoise, et puis aussi un mode de fonctionnement, puisque la Chine, par exemple, a créé, en tout cas a financé une académie diplomatique à Tunis, qui a vocation non seulement à former des diplomates tunisiens, mais aussi des diplomates d'Afrique subsaharienne, selon ses propres pratiques.
Alors, les diplomates formés par la Chine, vous l'évoquez à l'instant, des diplomates africains, mais aussi d'Asie du Sud-Est, et puis d'Amérique latine. Maurice Weiss, qu'est-ce que vous inspire ce que vient de décrire Alice Ekman quant à la diplomatie chinoise, là où on voit les diplomaties de pays installés décliner? Comment cela résonne-t-il et quelles leçons les diplomaties françaises ou autres devraient tirer de ce qui se passe face à la diplomatie chinoise?
Je ne sais pas quelles leçons devraient tirer, mais je crois qu'elles devraient s'en méfier et s'en inquiéter, parce que on voit très clairement, que ce soit pour la diplomatie chinoise, pour la diplomatie turque, une véritable volonté de puissance diplomatique, qui n'est d'ailleurs pas contradictoire avec une volonté de puissance militaire. Et par conséquent, on est obligé de se dire attention, parce que, par exemple, en ce qui concerne la diplomatie turque, on voit combien elle s'est dotée d'un certain nombre d'agences, comme les instituts culturels Yunus, l'agence turque pour la coopération internationale et le développement TIKA. On voit combien la Turquie essaye de lancer ses réseaux un peu partout, et en particulier vers le Proche-Orient. On apprend de plus en plus l'arabe, alors qu'auparavant c'était les langues étrangères européennes. Par conséquent, il y a, à mon avis, de quoi s'inquiéter pour les diplomaties occidentales, parce que ces diplomaties des pays émergents sont de plus en plus conquérantes. Mmh. Et bien, elles rattrapent le temps de façon extraordinaire. L'argent dépensé, par exemple, pour l'aide humanitaire entre 2010 et 2017, ce montant de l'aide humanitaire est passé de 967 millions de dollars à 8000 millions de dollars. C'est extraordinaire. On a vraiment l'impression que la Turquie a mis tout l'accent sur cette implantation à l'étranger.
Et il y a effectivement une dynamique des pays émergents. On a parlé de la Turquie, on a parlé de la Chine. La question se pose de savoir si c'est encore un pays émergent ou pas. Probablement émergé. Et aussi le Brésil. Le Brésil, le géant d'Amérique latine, qui a Itamaraty, c'est un ministère des Affaires étrangères particulièrement influent. C'est un peu une surprise en ce qui concerne
alors,
le Brésil.
Dans ce livre, j'avais demandé à Yves Saint-Jour, qui avait été ambassadeur à Brasilia, de traiter de l'Itamaraty, et son texte est extrêmement intéressant parce que il l'a écrit au moment du passage à un nouveau président au Brésil, et il dit de façon extrêmement intéressante comment la diplomatie brésilienne va-t-elle réagir au nouveau cours de la politique brésilienne. Et le diagnostic que Yves Saint-Jour porte, c'est de dire qu'à son avis, elle va résister et qu'elle va réussir à avoir, en définitive, le dernier mot. On verra.
Alors, la question des think tanks, Alice Ekman évoquait les think tanks chinois comme finalement des relais pour la diffusion de la politique chinoise. Maya Kandel, il en va tout à fait différemment aux États-Unis, où l'expertise universitaire a un rôle certain. C'est particulièrement le cas, effectivement, des pays anglo-saxons, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Quelques mots sur l'importance des think tanks dans la diplomatie américaine?
C'est vrai que c'est intéressant, les États-Unis sont vraiment un cas particulier. On a un véritable écosystème à Washington entre le monde des think tanks, les universités qui sont à Washington, un peu au-delà aussi, et l'administration, enfin les diverses administrations, le monde politique. Et donc on a très souvent des idées, des politiques qui sont élaborées dans des think tanks qui sont ensuite mises en œuvre par les administrations. Alors avec des variantes, pendant très longtemps, on avait la Brookings qui était en gros fournisseur officiel des politiques démocrates, et puis par exemple l'American Enterprise Institute pendant notamment les années Bush, fournisseur officiel de politique étrangère républicaine. Je caricature un peu. Ce qui est intéressant, je trouve, aujourd'hui, hein, là encore avec Trump, c'est que Trump a réussi une chose que Obama, je pense, avait tenté aussi, mais qui n'avait pas réussi, c'est vraiment de bousculer les limites du débat sur la politique étrangère américaine. On a aujourd'hui aux États-Unis un débat vraiment sur les objectifs, les moyens de la politique étrangère, comme on n'en a pas eu depuis plusieurs décennies aux États-Unis. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump bouscule des frontières de consensus qui étaient un peu fixées en réalité par les think tanks, justement. Et donc, on voit sous Trump un certain nombre de think tanks devenir non pertinents, hors du processus d'influence, de décision. L'American Enterprise, aujourd'hui, est complètement marginalisée, puisque la mainmise de Trump sur le Parti républicain a symbolisé pour la politique étrangère le rejet des néoconservateurs, hein, qui étaient quand même prégnants depuis les années 90. Obama avait essayé il s'élevait contre cette pensée unique du blob, comme il l'appelait. Mais finalement, Obama n'avait pas réussi à bousculer ça. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui sous Trump, c'est des think tanks anciens qui deviennent influents alors qu'ils n'avaient pas cette influence et certainement pas sur la politique étrangère. Donc, je pense en particulier au Hudson Institute et à la Heritage Foundation qui s'occupaient plutôt de questions intérieures mais qui n'avaient pas du tout cette influence sur la politique étrangère. Ça pose quelques problèmes parce qu'ils n'ont pas peut-être toujours le bagage et les interactions avec le monde universitaire. Et puis, on a un paysage qui est bousculé aussi avec l'apparition, ça a été annoncé récemment, d'un nouveau think tank. Alors là, ce serait plus à gauche, hein, ce que j'ai mentionné jusqu'ici, c'était plutôt à droite. Plus à gauche, un think tank baptisé Quincy, du nom de John Quincy Adams, qui avait donné cet avertissement que la politique étrangère américaine ne devait pas aller à l'étranger chercher des monstres à détruire. Et un nouveau think tank cofinancé par un duo absolument improbable constitué de George Soros et des frères Koch. Donc c'est deux frères qui ont fait fortune dans l'énergie aux États-Unis et qui ont toujours défendu des politiques très libérales. Et apparemment, le mot d'ordre de ce nouveau think tank serait « plus jamais de guerre sans fin ». Donc on voit que ce débat s'élargit. Et un autre point pour finir vraiment sur la diplomatie, hein, au niveau du paysage intellectuel, il y a une des candidates à la primaire démocrate, Elizabeth Warren, qui a beaucoup de projets pour beaucoup de domaines, mais qui a notamment un programme extrêmement détaillé, développé, pour réformer la diplomatie américaine et le département d'État. D'une part, c'est un projet qui est intéressant, mais en plus, c'est notable parce que la politique étrangère et la diplomatie en particulier ne font pas d'habitude l'objet d'une telle attention de la part de candidats, surtout dans cette phase de l'élection, hein, on est encore dans les primaires. Ça montre qu'il y a vraiment un questionnement aux États-Unis sur l'importance de la diplomatie dans la politique étrangère, son rôle, sa place au XXIe siècle, et notamment par rapport à la concurrence de la Chine, de la Russie et d'autres diplomaties qui ont été
évoquées. Alors la diplomatie américaine qui par ailleurs a la spécificité de nommer ambassadeurs, ceux parmi les plus gros contributeurs aux campagnes présidentielles, ça n'a pas changé sous Trump, même si d'autres choses ont changé. Maurice Weil, je me tourne vers vous pour un petit mot de conclusion.
Je trouve que faire le panorama des diplomaties et des outils diplomatiques d'un certain nombre de pays aurait pu paraître un peu éloigné de toutes les préoccupations que les citoyens peuvent avoir sur le monde contemporain. Or, c'est tout le contraire parce que on y retrouve au fond toutes les problématiques actuelles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent du contribuable? Qu'est-ce qu'on veut faire à l'étranger? Est-ce qu'on veut avoir une politique qui porte aide à des pays en voie de développement, etc.? Comment veut-on construire une diplomatie? Quel type de diplomate veut-on avoir? Et cela pose aussi le problème qui a été soulevé par plusieurs des chapitres qui ont été utilisés. La question de la diversité, la question du genre également. On a vu récemment qu'on mettait au premier plan le problème de la féminisation du Quai d'Orsay. C'est un phénomène que l'on retrouve un peu partout dans ces textes, et en particulier dans la diplomatie canadienne, qui est très à l'avance sur beaucoup de ces points.
Merci Maurice Weiss. Je rappelle que vous êtes professeur émérite d'histoire des relations internationales et directeur, pour ce qui nous intéressait aujourd'hui, de diplomaties étrangères en mutation aux éditions Pédone. Merci aussi Alice Ekman, chercheur responsable des activités Chine à l'IFRI et enseignante à Sciences Po, et Maya Condel, historienne, chercheuse associée à l'Université Paris 3 Sorbonne, nouvelle spécialiste des États-Unis. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Nathalie Laporte et Véronique Durand. Demain, c'est Chantal Leroux que vous retrouverez. À très bientôt.